France Inter.
Bonjour Frédéric, mille merci pour cette émission consacrée à Franquin. À propos de Gaston Lagaffe, il me semble qu'il aurait été utile de préciser que les premiers étaient co-signés par Franquin et par JDM, dont il n'est pas inutile de rappeler que, en fait, c'était le vrai nom du co-signataire, c'était Jean de Mesmecker. Voilà, merci encore pour cette émission et pour toutes les autres. À bientôt.
Hello Blockbuster, merci pour cette émission sur Franquin et surtout merci pour le conseil final d'acheter ne serait-ce que les idées noires. Je viens de les relire alors que je les avais pas lues depuis plusieurs années, c'est d'abord très drôle, mais c'est incroyable comme on a l'impression que Franquin est presque parmi nous. Un des sketchs est sur un coupeur de coups qui se réjouit alors qu'il est en train d'aller en vacances en avion, combien il est capable de couper les coups sur les boulons, et un des boulons de l'avion s'éclate. Et j'ai lu ça en plein scandale de Boeing. Enfin, c'est plein de trucs comme ça. Merci pour cette émission. Bon courage, continuez s'il vous plaît. Merci.
Frédéric, je t'ai plongé dans les blockbusters en voiture pour récupérer ma famille. Résultat, j'ai loupé 3 sorties d'autoroute avant de me rendre compte que La Rochelle, c'est pas du tout par là. J'ai perdu 1h30 de trajet et ma famille a pu profiter un peu plus de la ville. Merci pour rien.
To be or not to be.
Si comme moi vous approchez non sans une certaine méfiance de la cinquantaine, ou mieux encore si vous la voyez s'éloigner au loin dans le rétroviseur, vous devez vous souvenir du mythique pré-générique de Mission Impossible.
Votre mission, à supposer que vous l'acceptiez, consiste à désamorcer une bombe thermonucléaire, cambrioler Fort Knox, vous introduire sous la djellaba d'un prince saoudien, ou faire taire Christophe Barbier. Bref, un truc censé être impossible. Comme toujours, si vous ou l'un de vos agents a été capturé ou tué, le département d'État nierait avoir eu connaissance de vos agissements.
Vous vous rendez compte de la puissance de cette phrase ?
Le département d'État nierait avoir eu connaissance de vos agissements.
Cette série date de 1966 et dès cette époque, on avait déjà entériné le fait qu'un gouvernement pouvait envoyer une équipe faire le sale boulot dans une nation étrangère et dire ensuite « c'est pas nous, on n'était pas au courant ». C'est quand même bizarre de se tenir aujourd'hui des théories conspirationnistes, de la défiance vis-à-vis des dirigeants politiques, quand depuis des décennies, toute une industrie du divertissement nous balance que nos dirigeants sont des menteurs. On a grandi avec Mission Impossible, 24 heures chrono, House of Cards, West Wing, Baron Noir, le Bureau des Légendes. Et pourtant, la politique du réel continue de nous surprendre. Finalement, vu notre CV en matière de séries politiques, ce qui est le plus surprenant, eh ben, c'est qu'on soit encore surpris.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
Bonjour, monsieur Phelps. Dans un peu plus de 6 semaines, le 10 novembre exactement, 8 millions de dollars d'héroïne seront livrés sur la côte à un endroit que nous ignorons. Un agent infiltré du nom de Bill Anderson a déjà trouvé la mort en essayant d'obtenir cette information. Seuls 2 hommes connaissent le point de livraison. Alvin Tenor, le plus gros trafiquant de drogue du Nord-Ouest. Et Frank Kearney, son lieutenant. Les organismes de renseignement traditionnels n'ont pas été en mesure de nous fournir d'autres détails. Votre mission, si vous décidez de l'entreprendre, consiste à intercepter l'héroïne et à faire arrêter Tenor et Kearney. Cette bande s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Jim.
Vous connaissez l'adage, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien, il n'y a pas meilleure série que Mission Impossible pour illustrer ce proverbe. Créée par Bruce Geller en 1966 pour la télévision, Mission Impossible est devenue en 58 ans une franchise de blockbuster à succès et aussi l'énorme véhicule de l'ego d'un homme, Tom Cruise. Également, une des rares séries de films d'action à avoir résisté à la mode de tous les films de super-héros. Pour comprendre l'évolution de cette série mythique, j'ai avec moi Renaud Besbourdier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du cinéma, auteur, scénariste et vous enseignez d'ailleurs le cinéma au collège Sévigné et on peut notamment vous lire sur le site Cinématrack.
C'est ça.
Avec nous, et je suis ravi, mon copain, mon poteau, Benoît Lagan, bonjour.
Salut Fred.
Vous êtes journaliste, chroniqueur et historien des séries. On ne peut malheureusement plus vous entendre sur France Inter en dehors des podcasts de votre chronique Le Temps des séries. Mais on peut heureusement continuer à vous entendre et même vous voir, ce qui avec un physique comme le vôtre est un avantage non négligeable. Dans Télématin sur France 2 chaque semaine.
Exactement, c'est ça.
Et pour une première, bonjour à Julie Anna Grignon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes scénariste, réalisatrice et on vous doit notamment quelques épisodes de Balthazar sur TF1, HPI et Weekend Family avec Eric Judor sur Disney+. Et vous avez pendant 10 ans participé au podcast, très bon podcast de cinéma, 2 heures de perdu. Et je crois que vous écrivez en ce moment votre premier long métrage.
Tout à fait, une comédie romantique.
Bon, alors si jamais il y a besoin d'un agent de sécurité ou de quoi que ce soit, une petite silhouette, je suis disponible. Bon, les présentations sont faites. Je pense qu'on peut totalement réaliser une mission possible. Voilà, c'est-à-dire parler de cette série.
Simple game. On va jouer. Il y a 4 joueurs. L'exfiltré ouvre la poche. Les opérateurs cybernétiques prennent le portefeuille.
Banque.
Unité centrale, mission impossible.
Where exactly?
Et où ça se trouve?
In Langley.
À Langley.
In Langley?
À Langley.
The one in Virginia.
Langley en Virginie.
Inside CIA headquarters at Langley.
À l'intérieur du quartier général de la CIA à Langley.
Is he serious?
Il est sérieux?
Always. Toujours.
If we're going to Virginia.
Si nous allons en Virginie, faisons un crochet par Fort Knox. Je peux entrer en hélicoptère dans le hall de la réserve fédérale et atterrir dans la chambre forte. Ce sera du gâteau à côté de cette connerie de vouloir braquer le quartier général de la CIA.
Qu'est-ce qu'on doit télécharger ?
Information.
Du renseignement.
What kind ? De quel genre ?
Profitable.
Genre bien payé.
C'était un extrait du film Mission Impossible réalisé par Brian De Palma en 1996 avec Tom Cruise dans le rôle d'Ethan Hunt, doublé en français par Patrick Poivet qui faisait des infidélités à Bruce Willis à ce moment-là, Ving Rhames dans le rôle de Luther Stickel, doublé par Jacques Martial et dans les rôles de Franz Krieger et Claire Phelps, Jean Reno et Emmanuel Béart qui se doublent tout seuls comme des grands en français. Mais avant le film de Brian De Palma de 1996, il y a cette série de 1966. Benoît Lagan,
oui.
Comment est né Mission Impossible, la série.
Il faut peut-être juste repositionner le contexte. Dans les années 60, la série policière à la télévision américaine est en train d'être un peu bouleversée par l'arrivée d'un certain James Bond. Hein, vous voyez de qui je parle.
Non, pas du tout.
Et donc, la télévision se dit, il faut que nous aussi, on ait des espions. Et donc, c'est assez rigolo parce que la télévision se dit à ce moment-là, bon, nos espions, on ne pourra pas faire James Bond. Même si le premier James Bond, il est télévisuel, puisque Casino Royale a été adapté dans une anthologie dès les années 50. Mais là, on se dit que contrer les films de cinéma James Bond, il faut trouver des astuces. Donc, on a des créateurs de télé qui se disent, bon, bah, il faut que soit on fasse de la comédie, donc ils vont faire Max la menace, de la parodie, soit ils vont faire de la comédie action, et ça va être nos agents très spéciaux, mm-hmm. Les agents très spéciaux. Et puis, ils inventent en 66 Mission Impossible. C'est Bruce Geller qui a longtemps travaillé sur du western, puisqu'il a travaillé sur Rawhide, la série avec Clint Eastwood, et qui a cette idée, en partant très inspiré par un film de Jules Dassin, et où il se dit, où il voit dans ce film, c'est en gros un groupe de personnes embauchées pour un casse, et chacun est spécialiste, donc il y a le monsieur muscle, il y a le spécialiste de la technologie, etc. Et donc, il voit que ça peut être intéressant, il se dit, et pourquoi ne pas en faire des espions ? Et c'est comme ça qu'une émission Mission Impossible en 66, produite par une maison qui s'appelle Desilu. Et Desilu, qui est ni plus ni moins que celle qui lance aussi Star Trek, qui fera Manix plus tard, qui a fait Les Incorruptibles. Donc, qui est vraiment la société de Lucille Ball, la comédienne et humoriste Lucille Ball. Et donc, qui a vraiment sa place hein, à la télévision américaine. Donc, forcément, on parie assez facilement sur ce genre de série.
Julie, Renaud, est-ce que vous aviez déjà vu la série avant qu'elle ait un coup de polish par Brian De Palma et Tom Cruise ?
Alors oui, parce que moi j'ai la chance d'avoir un papa qui m'a montré énormément de séries quand j'étais plus jeune, donc que ça soit Les Envahisseurs, Le Prisonnier ou Mission Impossible. Je pense que vraiment j'en ai regardé
super papa.
Super papa. Oui. J'en ai regardé un sacré paquet avec lui. Et plus récemment, je sais que la Paramount Channel les avait récupérés et par nostalgie, je m'étais relancée dans un petit rerun avec un souvenir assez ému à l'épisode du Casino. J'aime vraiment beaucoup ces épisodes-là. Voilà.
Renaud ?
Moi, beaucoup moins, même si mon papa m'a aussi montré Les Envahisseurs et Le Prisonnier, donc il est très bien aussi, mon papa.
C'est bien, parce qu'on parle souvent de la démission des pères. C'est bien qu'il y ait des fondamentaux, au moins il faut rattraper des séries. Voilà, c'est bien.
Non, mais par contre, j'ai un très bon souvenir du générique, évidemment, ce que je voyais souvent passer. Et en revoyant des épisodes un petit peu là pour préparer l'émission, je me suis rendu compte que j'en avais quand même vu certains à la télévision et que j'avais échappé au remake des années 80 tourné en Australie. Qu'ils ont fait, il me semble, avec des scripts réutilisés pendant la grève et qui, pour le coup, n'a pas du tout le charme de la série de 66.
Et il y avait notamment un casting dans cette série. Il s'est étoffé au fur et à mesure. Mais pour parler des personnages principaux, Benoît, est-ce que vous pouvez nous présenter ces personnalités riches?
Ce qui est intéressant avec Mission Impossible, c'est que quand ça arrive en 66, même si on n'a pas encore... On n'a pas encore de série dite chorale comme on va les avoir dans les années 90 avec vraiment pléthore de personnages. On est quand même dans une époque où la tendance, elle est plutôt quand même au héros unique ou au duo. Mais il y a forcément donc, puisque le principe c'est que à chaque épisode, il embauche son équipe d'experts pour le coup du jour, enfin l'épisode du jour. Et là, même si c'est toujours les mêmes, enfin très vite ça va être toujours les mêmes, on a besoin de personnalités issues des Afro-Américains, par exemple. Donc, on va avoir le personnage de Barney, par exemple, qui va être ce personnage-là. On va avoir besoin d'un personnage féminin pour la touche charme. On est encore dans les années 60. Il a fallu du temps pour que ça change. Mais voilà, son premier rôle, c'est celui-là. Et puis le personnage de Rollin Hand, interprété par Martin Landau.
Oui.
Et qui
le
est...
papa de Drusilla.
Voilà.
Dans Buffy. Voilà. Il faut savoir qu'il y a une filiation.
Et qui est le personnage central pour comprendre les films qui vont suivre, puisque c'est en réalité ce personnage-là qui inspire clairement le personnage de la saga cinématographique, puisqu'il c'est un comédien qui a la capacité de changer de visage, d'endosser des costumes, etc.
Et d'ailleurs, l'atout charme dont vous avez parlé, c'est Barbara
Blaine.
Qui seront en couple d'ailleurs.
Ils seront en couple avec Martin Landau.
Et on les retrouve dans Cosmos 1999.
Exactement. Et ils partiront de la série ensemble. Voilà.
Un couple solide.
Voilà.
Oui, c'est bien.
Et voilà. Et donc, il sera remplacé, quand il s'en va, par Leonard Nimoy, que l'on connaît pour Star Trek, Monsieur Spock. Qui jouera Paris dans la série, dans la suite, avec un peu le même principe de personnage.
Peter Graves, qui est également ce pilote mythique de l'avion dans Y a-t-il quelqu'un pour sauver l'avion ? Y a-t-il un pilote de l'avion ? Voilà, qui dit à ce jeune garçon qui fait visiter le cockpit, est-ce que tu aimes les films de gladiateurs ? Tu as déjà vu des gens tout nus ? Voilà, c'est donc Monsieur Mission Impossible. Comme quoi, il y avait quand même une sorte de grand écart absolument incroyable à cette époque. Quelle a été la réception du public en voyant Mission Impossible ?
Alors, la première saison est une marche à peu près, mais c'est pas non plus le grand succès. Mais ils sentent qu'ils ont vraiment un concept parfait, puisqu'ils mettent vraiment en place qu'on appelle dans le jargon le formula show moderne, c'est-à-dire la série formule moderne telle qu'elle va être multipliée et multipliée tout au long des décennies jusqu'à encore quelques exemples persistent encore aujourd'hui. Et c'est ça qui fait le charme de la série, c'est qu'on sait toujours que, en gros, le générique, ça va être une bande-annonce de ce qu'on va voir après. Il est construit comme ça, avec la célèbre musique de Lalo Schifrin. Qu'ensuite, on a ce fameux moment avec le radiocassette.
Oui. Radiocassette qui devient ensuite un CD, etc., etc.
Le moment où ils sont tous ensemble, puisqu'il a choisi son équipe et il prépare la mission. Et ensuite, la mission... Où là, et ça c'est quand même la force à partir de la saison 2, et là c'est très très bien, et ça prend vraiment, la série marche très fort à partir de la saison 2 et 3, avec ce principe où quand même ils arrivent à nous faire rentrer dans une histoire sans parfois très peu de dialogue, enfin le minimum syndical, et où tout est montré, rien n'est expliqué, mais on comprend tout, et on est pris avec eux dans l'aventure, et ça... inspiré énormément de séries après.
Nous sommes ensemble pour parler de la franchise Mission Impossible. Là, vous l'avez entendu, on parlait d'abord de la série. Et comme il a été dit, Mission Impossible, c'est surtout un thème. Le thème de Lalo Schifrin, qui a été réadapté par le groupe Limp Bizkit pour le thème de Mission Impossible 2. Et oui, là, je vois autour de la table dire « Oh non, eh ben si, vous allez entendre du Limp Bizkit parce que c'est Blockbuster et que j'aime bien faire ça, ces petits attentats auditifs en début d'émission avec Take a Look Around, parce qu'on n'a jamais assez de groupes californiens un peu énervés qui font des trucs.
Je vais vous poser une série de questions de contrôle.
Je sais. Et je vais vous répondre la vérité et ensuite vous me demanderez de mentir intentionnellement.
Donnez votre nom.
Le roi de Norvège. Ça fait 6 mois que je suis ici, à passer au crible des montagnes de métadonnées et d'hexaoctets d'excréments codés. J'ai décrypté, traité, analysé plus de données que quiconque dans ma section. Et pourtant, chaque semaine, vous me traînez ici et vous me posez la même question. Mais bon, de façon différente.
Et aujourd'hui, vous n'avez toujours pas répondu.
Vous avez l'air de croire que j'ai une sorte d'obligation envers lui. Très bien, rien n'est plus éloigné de la vérité. Ethan Hunt est toujours dehors sur le terrain, alors que moi je suis coincé ici à vous rendre des comptes.
So good.
Blockbuster sur France Inter.
See, there's no modem access to the mainframe.
Il n'y a aucun accès modem vers une unité centrale.
It's in what we call the standalone.
C'est pour ça qu'on les appelle Tour d'Ivoire.
Which means.
Ce qui implique que je devrais être présent à l'intérieur du terminal.
Relax, Luther.
Reste calme, Luther.
It's much worse.
C'est bien pire que tu ne crois.
The terminal is in a black
le terminal est verrouillé en chambre forte hermétique. L'unique personne autorisée à y pénétrer doit passer toute une série de contrôles de sécurité.
William Dunlow.
Le premier est une identification par empreinte vocale avec code d'accès à 6 chiffres.
This only gets him into the outer room.
Ça ne lui permet d'entrer que dans la salle intermédiaire.
Next he has to pass a retinal scan.
Puis il faut qu'il passe une exploration rétinienne.
And finally, the intrusion
countermeasures. Enfin, les mécanismes anti-intrusion ne peuvent être neutralisés que par une double clé électronique codée,
which we
que nous ne possédons pas.
Now,
À l'intérieur de la chambre forte hermétique, il y a trois systèmes en action à tout moment où le technicien n'est pas présent dans la salle. Le premier est sensible aux vibrations acoustiques. Tout son qui dépasse l'intensité d'un murmure le déclenche. Le deuxième système détecte toute élévation thermique. La chaleur corporelle d'une personne non autorisée sur les lieux suffira à le mettre en route, même si la température n'augmente que d'un seul degré Fahrenheit. Cette température est contrôlée par l'air conditionné provenant d'un conduit situé à 10 mètres au-dessus du sol. L'ouverture est protégée par des faisceaux laser. Le troisième système est dans le sol. Il est sensible à la pression. Le moindre accroissement de poids déclenche l'alarme. Si l'un quelconque de ces systèmes est mis en route, tout le secteur est automatiquement bouclé. Vous pouvez me croire quand je vous dis que ces trois systèmes sont à la pointe de la technologie.
C'était la suite du plan dans ce nouvel extrait du film Mission Impossible de Brian De Palma en 1996 avec Tom Cruise doublé toujours par Patrick Poivet, Ving Rhames doublé par Jacques Martial et Jean Reno et Emmanuel Béard. Alors évidemment, Mission Impossible, il y a cette série de 1966. Ensuite, il y a Mission Impossible 20 ans après. Mmh. Voilà, avec le fils de Barney d'ailleurs. Et puis arrive ce film de Brian De Palma. Donc c'est l'adaptation de Mission Impossible sur grand écran avec Tom Cruise, Jean Reno, Emmanuel Béard. Je crois que c'était le papa de Angelina Jolie,
John Voight.
Voilà qui. C'est marrant, avec le temps, moi, je retiens plus que c'est le père d'Angelina Jolie, qui joue dedans, qui joue Jim Phelps, et qui rompt quand même assez fortement avec l'image que l'on avait de la série, Julie.
Ah bah complètement, puisqu'il décide de tout détruire pour tout reconstruire sur des nouveaux codes et sur une nouvelle bande, puisque, sans trop spoiler, dans les 20 premières minutes de ce film, c'est une redistribution de cartes, toute l'équipe est décimée pour réaxer le film complètement aussi sur le personnage d'Ethan Hunt. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est comment Brian De Palma va réutiliser tout le matériau pour le transformer et en faire complètement autre chose, c'est-à-dire un thriller paranoïaque qui lui ressemble aussi plus en tant que réalisateur.
Oui, parce qu'il faut se souvenir que peu de temps avant, il avait déjà fait, je crois, peut-être que je me trompe, Snake Eyes avec Nicolas Cage, qui était aussi, où il le fait après.
C'est 99.
Ok, ouais. Donc c'est plutôt, alors c'est la période où il est vraiment...
Là, il sort de l'impasse, okay, il sort du bûcher des vanités, et d'ailleurs, c'est ça a presque floppé, on va dire. Donc lui, il a besoin aussi de regagner la confiance d'Hollywood pour continuer à faire des films avec des gros budgets. Donc pour lui, il sait très bien pourquoi il y va, mais il va quand même essayer d'injecter du Brian De Palma dans la licence Mission Impossible.
Donc là, c'est vraiment le retour de sa période paranoïa au cinéma via Mission Impossible ou Snake Eyes.
Complètement. Et ce qui est intéressant, c'est que Tom Cruise est déjà dans une recherche de réalisateur. C'est-à-dire que pour Mission Impossible, il s'associe avec son agent, son ex-agent aujourd'hui, Paula Wagner. Et ils font une boîte de prod et c'est eux qui décident de relancer Mission Impossible. Et pour ça, ils se mettent en quête d'un réalisateur. Donc au début, ça devait être Sidney Pollack qui finalement va lâcher le projet pour aller réaliser Sabrina. Et ils vont aller chercher Brian De Palma parce que Tom Cruise a déjà à ce moment-là aussi une vision de ce qu'est la mise en scène et il comprend l'importance d'attacher au projet quelqu'un qui va avoir une patte, une identité propre pour relancer ce qu'il espère être une licence, même si au début il n'y a qu'un film de prévu. Sachant qu'à ce moment-là, dans la carrière de Tom Cruise, il n'y a pas de suite. Enfin, il n'y a pas eu de Top Gun 2 pour le moment. Il a toujours refusé de réitérer des films qui avaient eu du succès. Donc c'est aussi une façon pour lui, en parallèle bien sûr du succès des films James Bond, de se lancer et de se dire « moi aussi j'ai envie de créer quelque chose à moi » et de lancer ça sur plusieurs films.
Renaud, la réception de ce Mission Impossible de 96 pour vous, en quoi ça a été une sorte de tournant à la fois pour Tom Cruise, mais aussi pour Brian De Palma?
Le tournant, il est surprenant à plusieurs égards. D'abord, il y a le côté fan de la série où il y a une trahison qui est ressentie. Imaginez la frange des fans qui étaient rebutés par Star Wars ou Disney. Imaginez ça fois 10 000 au vu de ce qui se passe dans le premier film. Et après, il y a effectivement réellement eu un succès. C'est surprenant de voir à quel point Brian De Palma réussit à s'emparer en fait d'un format blockbuster tout en gardant son identité d'auteur Et on peut effectivement marquer ça comme le début d'une bascule chez Tom Cruise vers une autre type de filmographie qui va quand même continuer sur le côté avec Steven Spielberg quand même, qui d'ailleurs est celui qui l'a mis sur la piste Brian De Palma pour la réalisation. Ils avaient dîné tous les trois ensemble et à ce moment-là, Tom Cruise s'est dit peut-être que De Palma c'est une bonne idée, je vais remater ses films.
Oui, parce que c'est aussi une période où Tom Cruise est déjà un petit peu, je vais pas dire blacklisté, mais voilà, c'est...
Pas tout à fait, pas encore, ouais, ça arrivera ouais. Plus tard, oui, plutôt aux alentours
du
3.
Le divan d'Oprah Winfrey et tout
ouais,
ça.
Ça sera Mission Impossible 3 et d'ailleurs, ce sera la grande tourmente.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les films sont déjà fabriqués d'une manière inattendue, inhabituelle, c'est-à-dire que Tom Cruise a un rôle énorme en tant que producteur et il décide déjà de certaines cascades avant même que le scénario soit écrit. Ce qui fait que c'est très difficile aussi pour les scénaristes. Il y en a qui claquent la porte, il y en a qui ça se passe pas très bien. Et il y avait cette idée en fait d'imaginer des séquences et de négocier ces séquences-là et de construire un peu autour le scénario. Et c'est quelque chose qui commence déjà ici et qui va se répercuter encore et encore sur toute la franchise. Donc ça aussi, ça pose une base intéressante parce que c'est une dérive qu'on retrouve dans plein de grosses franchises cinématographiques, mais étrangement Mission Impossible, ils s'en sortent un peu mieux, peut-être parce qu'ils s'appellent Mission Impossible et que c'est un peu leur métier de faire ça.
Oui, et puis parce qu'il y a un investissement total de Tom Cruise qui, toute façon, dit « Ah tiens, j'aimerais bien frôler la mort en faisant ça, est-ce qu'on peut écrire un scénario autour ?»
Exactement.
Mais à tel point que Tom Cruise avait son scénariste, donc Robert Towne, d'un côté, et que Brian De Palma avec David Cup de l'autre, donc scénariste de Jurassic Park, etc., enfin, plein de monuments du cinéma, et qu'ils avaient même parfois des versions différentes du scénario, et que même la scène finale a été un énorme débat, puisque d'un côté, elle était en huis clos, de l'autre côté, c'était une énorme cascade, et c'était que des... comment dire, des chemins rencontrés en fait au final où il y en avait un qui craquait, l'autre craquait pas, c'était souvent enfin Brian De Palma par exemple voulait absolument tourner en Europe alors que le film au début était prévu pour être tourné aux États-Unis même dans son scénario, enfin vraiment tout le monde s'est un peu rencontré à mi-chemin à des moments et puis il a fallu lâcher aussi certains combats ne valaient pas la peine d'être menés quoi.
Benoît Lagan, justement en tant qu'amateur de la série d'origine et aussi en tant qu'expert de série, comment vous avez appréhendé ce film, parce que j'imagine que quand on aime les séries on dit ah bah tiens voilà un film qui va continuer à faire parler des séries.
Bah c'est moi je fais vraiment partie de ces fans qui ont hurlé mais hurlé quand je suis sorti du film. On ne tue pas Jim Phelps.
Il l'a dit,
Mais non, parce qu'à un moment donné, ils ont tellement trahi qu'on peut le dire.
Non mais au-delà de ça, on ne fait pas de Jim Phelps le traître. Méchant de l'histoire.
Et on ne fait pas, on en fait pas un traître. Bon, alors, il y avait ça, mais ça encore, why not? Enfin, je dis pourquoi pas. Si, parce que dans ce que tous ceux qui n'ont pas vu la série ne peuvent pas savoir, mais il y a dans la série tout ce qui pourrait faire un excellent film de franchise. Parce que ça part du principe que on a un personnage qui prend une équipe, qui crée une équipe pour créer quelque chose avec cette équipe, et qui est a priori totalement impossible, mais qui à la fin va forcément marcher. Et le suspense n'est pas dans le fait que est-ce qu'ils vont y arriver ou pas y arriver. Enfin, on sait qu'ils y arriveront de toute façon, mais que comment ils vont s'y prendre pour le faire ça de façon la plus incognito possible. Et moi, cette idée-là, je la trouve exceptionnelle en termes de cinéma. Or, à partir du moment où on trahit tout, alors pourquoi faire Mission Impossible ? Autant faire autre chose et l'appeler Impossible Mission. Enfin, j'en sais rien.
Mais il y a un concept. Hein. Je pense qu'on devrait y aller. Hein.
Et moi, c'est ça qui me rend furax au moment où... Et au final, c'est avec le film de J.J. Abrams que je renoue un petit peu, moi, avec la franchise cinématographique, parce que, à minima, ce que fait Abrams, c'est qu'il y met sa culture télé. Et on se dit, ben, au moins, font comme aujourd'hui avec le film L'homme qui tombe à pic, où c'est pas l'homme qui tombe à pic de la série télé, mais c'est un hommage à la télé et à la façon dont on racontait, où on racontait les histoires à la télé.
On va poursuivre notre exploration passionnée. Et pour le moment, si on écoutait Aptems avec Burning.
J'avais pas le choix. T'inquiète.
Ça va ?
Je devrais être mort.
On devrait tous être morts.
It was all a dream, just a new girl on the scene. Got your face on magazines. How it feels is killing me. Body you care to see. Plenty fire in my
Blockbuster.
You know that, right?
Frédéric Sigrist.
Okay, fine, fine, fine.
Sur France Inter.
I have a team in Paris ready to grab Lark as soon as he leaves the palais.
J'ai une équipe à Paris qui est prête à accueillir Lark dès qu'il sortira du Grand Palais.
A G5 standing by to rendition him to Gitmo.
Un jet est prêt à décoller pour l'emmener directement à Guantanamo où nos spécialistes sauront le faire parler.
Spend 24 hours we don't have...
Perdre 24 heures pour extorquer des aveux auxquels on ne pourra pas se fier à un homme qu'on n'est même pas sûr d'avoir identifié, non.
We need reliable intelligence, we need...
On a besoin de renseignements fiables et on en a besoin tout de suite. C'est pour des situations comme celle-là que Mission Impossible existe.
The IMF is Halloween.
Mission Impossible est une farce, Alan.
Men in rubber masks playing trick or treat.
De grands enfants qui passent leur temps à mettre des masques comme pour Halloween.
And if he had held on to the plutonium in Berlin,
si Hunt n'avait pas perdu le plutonium à Berlin, nous ne serions pas en train d'avoir cette conversation.
And his team would be dead.
Et ses coéquipiers seraient morts.
Oui, ils seraient morts.
That's the job.
Ce sont les risques du métier. Et c'est pour cette raison que je tiens à ce qu'un homme à moi soit présent sur le terrain pour évaluer la situation.
Agent Walker.
L'agent Walker de la division des opérations spéciales.
Sa réputation n'est plus à faire.
Vous utilisez le scalpel? Moi, je préfère le marteau.
C'était un échange extrêmement tendu entre Alan Hunley, secrétaire à la Défense, et Erika Sloan, directrice de la CIA dans Mission Impossible Fallout, réalisé en 2018 par Christopher McQuarrie avec Alec Baldwin dans le rôle d'Hunley et doublé en français par Bernard Lano et Angela Bassett par Maïk Dara. Alors, évidemment, après ce Mission Impossible qui casse, qui disrupte, qui casse, voilà, qui énerve Benoît Lagan, après qu'il ait lancé, voilà, ses pétitions pour qu'on retrouve l'adresse de Tom Cruise et Brian De Palma, enfin bref, il était déchaîné à cette époque, on arrive sur Mission Impossible 2, réalisé par John Woo. Prodige du cinéma hongkongais qui arrive avec ses gunfights et ses colombes, même en souterrain, par tout temps et par tout lieu, et un Tom Cruise qui est presque tout seul, avec les cheveux longs et qui fait aussi encore plein de cascades. Donc qu'avez-vous pensé de ce Mission Impossible 2?
Alors le Mission Impossible 2, comme j'aime l'appeler, le Tom Cruise Show.
Oui, voilà.
Oui. Moi, je pense que tout n'est pas à jeter. Hélas, je trouve qu'il paye un peu le temps qui est passé. Il y a un gros male gaze. Enfin, moi qui me dérange un petit peu la vision. Après, il est quand même sublimé dans son physique, dans sa plastique, dans la façon dont il apparaît à l'écran, tel un aimant. Je trouve que autant il est très beau dans le premier, autant dans le deuxième,
d'ailleurs,
il y a vraiment une espèce de fascination autour de son corps, de ses muscles, ne serait-ce que par cette scène d'ouverture avec la musique Ico Ico qui, moi, me restera en moi à tout jamais. Je le trouve incroyable. Il y a des scènes de moto dont on se souvient aussi. Mais...
Mais parce qu'il y avait ces toutes petites touffes de poils de tout gras. Mais je les voyais sur grand écran et j'étais fasciné parce qu'il était comme ça en position christique en train de faire de la rap et je me dis il a des petits poils sur le gras. Et vraiment j'ai...
Alors moi j'étais plus focalisé sur la coupe de cheveux qui à l'époque était un
moi,
peu
les
mode,
cheveux
peu,
vous savez si les éditeurs ont vu des photos de moi ils savent que c'est un sujet que j'ai abandonné depuis très longtemps donc
mais moi j'en ai un souvenir j'aurais préféré rester sur mon ancien souvenir plutôt que le revoir il y a peu de temps. Mais ça reste quand même assez généreux. John Woo vient de faire face-off, volte-face. Moi, j'aime bien aussi cette sincérité, cette générosité. Oui. Après, on sent qu'il est vraiment au service de la star de Tom Cruise.
Mais c'est
Benoît Lagaffe.
Moi, c'est alors il y a eu la première trahison du premier film. Ce deuxième film, bon, finalement, j'y vais sans en me disant de toute façon trahi pour trahi, voilà. Et là, ce que je trouve, c'est que c'est vraiment Tom Cruise qui continue de trahir lui. C'est-à-dire qu'en fait, il devient l'ogre de tous les personnages collectifs, enfin, du groupe Mission Impossible. Il est tout, en fait. Il est tous les personnages en lui.
Avec pour ennemi Doug Ray Scott. Qui logiquement devait tourner Wolverine et qui se blesse sur le tournage de Mission Impossible 2 et donc il passe à côté du rôle de Wolverine et c'est pour ça que Hugh Jackman le récupère. Alors certains vont dire ah oh, bah c'est super, mais ils ont une pensée pour Doug Ray Scott qui doit s'endormir chaque soir en disant
j'ai pas joué de Wolverine.
Après, ce qui est surprenant, c'est que le film c'est le plus gros succès de John Woo au box office, donc il y a quand même ça derrière, mais voilà, effectivement c'est un film qui est en demi-teinte. Moi, à chaque fois que je le revois, c'est soit en fait la fois d'avant je me disais c'est vrai que c'est quand même pas mal, et ou soit la fois d'avant je me disais c'est quand même horrible, donc ça bascule à chaque fois. Et ce que moi je garde en fait, c'est ce que je disais sur le premier film, c'est la manière dont ils vont commencer à construire les films avant d'avoir un scénario et avoir en fait des cascades absurdes et mais vraiment vraiment de plus en plus absurdes, non seulement donc la falaise dont on parlait tout à l'heure avec cette idée en fait de que Tom Cruise va voir les producteurs et leur dit en fait moi je suis la star et je veux faire ces scènes où je suis suspendu à une falaise dans le vide et je saute d'un bout à l'autre et vous allez rien faire en fait, je m'en fiche des compagnies d'assurance, je vais le faire, point barre. Et il le fait parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Et à voir, c'est effectivement, c'est impressionnant. Est-ce que le tout fait un bon film? Pas vraiment, mais on est encore sur cette période-là, sur ces premiers films de Mission Impossible où les longs métrages ne se ressemblent pas et ressemblent quand même à leur réalisateur. Il y a quand même le style de John Woo qui est là. Il y a un passage notamment entre deux voitures qui sont côte à côte sur la route où il y a un dérapage et qui enchaîne la cascade avec un gros plan ralenti sur les visages extrêmement romantiques. On a quand même une certaine patte qui est présente et qui fait quand même plaisir à voir, même si le tout est quand même très très bancal, pour ne pas dire un mot plus offensant.
Et puis arrive Mission Impossible 3 de J.J. Abrams, l'homme qui adore arriver en cours de franchise avec des idées de départ et après quand on lui dit mais comment ça se termine, je sais pas.
Et c'est Tom Cruise qui va le chercher hein, parce qu'au départ il devait y avoir Fincher à un moment, il devait y avoir Cara Ann, mais donc il va chercher J.J. Abrams justement pour Alias. D'ailleurs il y a une anecdote un peu rigolote, il était en train de faire le montage du pilote de Lost et Damon Lindelof débarque dans la cabine de montage pour parler avec J.J. Abrams, puis il voit Tom Cruise qui est là et qui regarde les plans et qui fait ah c'est super et tout, puis Lindelof qui comprend pas, puis après il comprend en fait que bon bah il va devoir continuer Lost tout seul sans J.J. Abrams en fait puisqu'il est débauché donc pour faire ce nouveau film dans lequel il va
du coup Lindelof depuis vous une haine féroce
à Tom Cruise peut-être non effectivement, et donc il y a une bascule. Alors le film marche très mal et c'est peut-être un des plus compliqués, mais en même temps celui qui pose des bases et des promesses pour la suite, je pense, celui de J.J. Abrams, en ramenant un peu plus, en éliminant un petit peu ce que disait Benoît avant, le côté Tom Cruise suprême partout.
Non, et puis ce qui est intéressant, c'est que Abrams, il vient, tu citais la série Alias, effectivement, c'est sa série Alias, c'est lui son hommage aux séries d'espionnage de son enfance, dont Mission Impossible. Et Sidney Bristow, c'est vraiment le personnage de Rolin Hand, mais au féminin. Et donc, on sent que quand on lui propose de faire un Mission Impossible, il a envie en fait de prendre en gros le Mission Impossible version Tom Cruise, mettre un petit peu du Alias qui est lui-même l'hommage, son hommage à Mission Impossible, et c'est là où, quand je disais tout à l'heure, qui reconnecte avec une certaine culture de la télé. Ça reste le film de cinéma Mission Impossible, on est très loin de la série Mission Impossible, mais au moins il y a quelque chose là qui, moi aussi, enfin, quand je le regarde, je me dis là ça y est. Je suis content parce que je suis fan d'Alias, donc j'ai mon épisode d'Alias sur grand écran. Il y a Kerry Russell qui joue dans ce film, voilà, qui aurait dû être celle qui devait incarner au départ Sidney Bristow dans la série Alias. Donc voilà, je suis content, le fan de série
mais
est content.
Je défends quand même Jennifer Garner, voilà, qui a un énorme talent et qui a été sous-exploité suite à la série d'Alias. Voilà.
Mais qu'on adore, voilà. Regardez 30 ans sinon rien, dépêchez-vous.
Et dans Elektra, non, pardon.
Et qui est super. Et qui est super.
C'est petit ça.
Et qui est super dans Alias, oui. Et qui le succès d'Alias tient beaucoup à Jennifer Garner.
Et puis, alors là, on va rapidement hein, d'un Mission Impossible à l'autre, mais c'est parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y a ce Mission Impossible 4 de Brad Bird. Juliana, je vous laisse la parole parce que je sais que...
Voilà. Merci beaucoup, tout à fait, c'est mon préféré, je l'adore, c'est celui où le collectif revient, c'est celui où on est une équipe et où dès la première scène, on est dans un équilibre que je trouve personnellement parfait entre l'action et l'humour, parce que j'aime beaucoup rire. Et je pense qu'on en a tous besoin. Et en vrai, je trouve que c'est le moment où ils arrivent à verrouiller quelque chose dans la façon dont ils écrivent leurs personnages, dont ils rythment leur action dans tout le film. Je trouve que c'est un petit bijou. Alors j'adore Brad Bird aussi pour son travail d'animation avant. Enfin,
le géant de fer, les indestructibles, évidemment.
Et je trouve ça très malin d'aller le chercher, lui qui a un vrai sens de la mise en scène justement dans ses films d'animation pour porter aussi ce projet. Il crée des moments de cinéma que je trouve incroyables, que ça soit le Kremlin, que ça soit cette tempête de sable avec cette escalade avec les gants, on perd un gant et c'est aussi le moment
qui est très drôle, c'est très drôle,
c'est très très drôle. Et surtout je trouve que en fait ça ramène de l'humanité sur le personnage de Tom Cruise qui en perdait vu qu'il était érigé un peu comme un espèce de héros indestructible. C'est le moment où par la comédie déjà il devient drôle, donc il devient un peu plus humain. Il partage avec ses acolytes, donc bah ça y est, on est dans quelque chose aussi de plus proche de nous. Et au-delà de ça, il est mortel, en fait. On manque de le perdre à plusieurs reprises et on commence à s'inquiéter pour lui. Ce qui n'était pas trop le cas dans les précédents, je trouve.
Si je ne m'abuse, c'est une époque où Tom Cruise se pose même la question de continuer ou non. Et c'est ce qui explique qu'aussi régulièrement dans le film, on a l'impression qu'il va y passer ou qu'il va... Parce que lui-même se posait la question tout du long en se disant « Est-ce que je produis pas et je laisse la franchise continuer sans moi ?»
De toute façon, il y a quelque chose qui est très intéressant sur Tom Cruise et les Missions Impossibles, c'est qu'à chaque fois, ça reflète un petit peu l'endroit où il en est. On n'en a pas parlé sur le 3. Le 3, c'est le moment où il y a la scène du canapé d'Opra, où il commence un petit peu à faire des sorties de route dans les médias et où il a besoin de rassurer. Donc il incarne un Ethan Hunt qui se marie, qui est posé, qui... Et en fait c'est intéressant d'avoir ce parallèle avec sa vie tout du long de la série Mission Impossible parce que ça reflète à chaque fois un petit peu son état psychologique aussi, la façon dont il interprète le personnage et dont il influe sur l'écriture d'Ethan Hunt.
On approche de la dernière partie de cette émission, mais pour le moment on va faire une pause musicale plus apaisée avec Étienne Dao. Respire. Inspire, respire. Bon là, c'est plutôt respire.
On se consume à tout petit jeu. Le charbon et les paupières en feu. Sa anesthésie de poison sans visage. Et des chants de sirènes de passage. Le soir progresse et son manteau de givre. S'étend sur ses mille visages et il dérive de séduction survie au grand art de l'esquive. Il esquive comme une peau de satin de serpent. Sa muse se dissout dans la nuit d'argent. Les eaux qui flambent vont se disperser et l'aveugler de paillettes d'acier. Lorsque ta vie ne semblera plus t'appartenir, que tu chercheras à t'enfuir, te reconstruire, ouvre grand les bras, gonfle ta poitrine et respire. Bien sûr, tous les gens du passé, tous les vampires, chercheront à te retenir, à te salir. Laisse un pur oxygène lentement t'envahir et respire. Dresse-toi dans le ciel bleu clair de Paris. Les drapeaux hissés flottent haut. Et irradie, les cloches à toutes volées vont retentir. Laisse un pur oxygène lentement t'envahir et respire. Respire. Respire.
Blockbuster, Frédéric Sigrist sur France Inter.
His name is Solomon Lane.
Il s'appelle Solomon Lane.
He created the syndicate.
Il a créé le syndicat.
Where does he come from?
Et d'où est-ce qu'il vient?
He's former British intelligence.
C'est un ancien des renseignements britanniques.
Well, if British intelligence
knows, eh ben, si les renseignements britanniques connaissent l'existence du syndicat, pourquoi ils ne le disent pas à la CIA?
Parce qu'ils ne veulent pas que l'on sache que le syndicat a été créé par l'un des leurs.
I was sent undercover to earn...
J'ai comme mission de gagner la confiance de Lane dans le but d'identifier les membres de son organisation.
For the first time in 2 years,
et pour la première fois en 2 ans,
I'm close to knowing who they are.
Je suis proche de savoir qui ils sont.
Lane, had alleged...
Lane avait un registre.
It contained the...
Il contenait les identités de ses propres agents, ses associés terroristes, tous les travaux internes du syndicat. Un de ses agents l'a volé pour le faire chanter et en tirer profit. Il l'a conservé dans un local informatique sécurisé pour le garder en sûreté. Il est mort lors de l'interrogatoire pour lui soutirer le code d'accès, laissant Lane avec un sérieux problème.
Alors la clé pour anéantir Lane est quelque part dans un ordi attendant qu'on la prenne.
Et pourquoi Lane n'a pas envoyé quelqu'un la voler?
Il a envoyé quelqu'un, et c'était moi. Je peux donc vous dire que c'est impossible.
Un extrait de Rogue Nation de 2015 réalisé par Christopher McQuarrie avec la toujours impeccable Rebecca Ferguson dans le rôle d'Ilsa Faust, doublé en français par Ingrid Donadieu, et Tom Cruise en Ethan Hunt, doublé par Jean-Philippe Puymartin, ainsi que Simon Pegg qui joue Benji Dunne, doublé par Cédric Dumont. Alors on l'a dit, Brad Bird a réinventé le collectif, l'a réintroduit très très fort dans Mission Impossible, et ensuite Christopher McQuarrie se lance dans une série de Mission Impossible. Et il y a notamment ce Rogue Nation ne vous a pas laissé insensible, Renaud.
Oui, c'est mon préféré. En fait, McQuarrie, il est déjà là sur le quatrième, puisqu'il, à la base, c'est un scénariste. Et en fait, il est là pour des réécritures en plein tournage. Donc, il se retrouve dans une situation d'enquête où il va voir s'il a le droit de changer alors que le tournage a déjà commencé. Et il est hyper intéressé par cette démarche, en fait, d'avoir des contraintes un peu partout autour de lui. Et il devient, il était déjà, en fait, un confident de Tom Cruise et il devient un binôme. Ce qui fait qu'on peut dire qu'il y a un Mission Impossible 1 à 4 très particulier, et ensuite la période McQuarrie qui ne va rien inventer de nouveau mais qui va essayer de synthétiser en fait énormément de choses à travers ce film là et les suivants, en apportant notamment de ce côté là effectivement, vous l'avez dit, Rebecca Ferguson, qui est un peu découverte avec ce film là ce qui est rare pour une actrice à Hollywood, puisque à l'époque du tournage elle a 31 ans, donc d'être découverte à cet âge là et qui est une actrice exceptionnelle pour sans doute le meilleur personnage de toute la saga, et donc c'est le moment où la saga en fait va
et d'ailleurs, qui est bonne même dans d'autres films,
comme
un film
Dune.
Qui est souvent Dune, mais même un film qui est décrié comme Doctor Sleep.
Ah oui,
où
fait.
Elle joue
absolument.
L'antagoniste,
elle
est incroyable,
elle est géniale avec son chapeau très iconique et tout, elle est vraiment géniale. Donc on a une formule qui fonctionne à bloc cette fois-ci et qui va à la fois s'étaler sur le marketing, où les cascades qui sont faites par Tom Cruise et par les autres sont très mises en avant, tout est ancré sur le spectacle, et on arrive à une période où en fait les films sont volontairement pas écrits en entier pour trouver des solutions au fur et à mesure des tournages. Par exemple, pour celui-ci, la fin, ils ont arrêté le tournage pendant 2 semaines pour réécrire avec Tom Cruise la fin parce qu'ils n'étaient pas satisfaits, puisque c'était une course-poursuite encore en solo. Et ils se sont dit, non, en fait, il faut que ce soit l'équipe. Et la fin est vraiment sur cet esprit-là, autour de l'équipe, avec si vous écoutez la musique, vous verrez, le morceau s'appelle Meet via IMF, rencontrer la Mission Impossible Task Force. Et donc, c'est vraiment l'équipe, avant tout, qui est cette fois entériné après Brad Bird.
Benoît Lagan, c'est quand même assez phénoménal de se dire que le premier Mission Impossible film casse le côté collectif de la série originelle pour au final mettre plus de 10 ans. On se dit, en fait, c'est bien le collectif.
Mais et c'est parce que entre le premier et le film 4, il se passe quand même dans l'histoire de l'audiovisuel et de Hollywood le fait que la série et les groupes sont partout.
Et même dans Fast and Furious.
Oui, et non, mais partout. Et que donc, finalement, le choix qui est fait au début de Mission Impossible, c'est presque un contresens par rapport au mouvement qui a lieu dans les histoires qu'on nous raconte à Hollywood. Donc, et bon, pourquoi pas, hein, mais c'est, moi, ça m'étonne pas qu'on y revienne. Et puisque, À partir du moment où, même si on s'est très 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 éloigné de ce qu'était la série, le principe de la série, c'est quand même d'avoir su inventer tout ce qui va, tout ce qu'on va voir après coup. Enfin, le personnage du geek, l'ultra technicien qui en fait est dans la mission. Bah, c'est Mission Impossible qui l'invente. Et ensuite, on va le retrouver. Il va même avoir sa série Chuck, par exemple, où on a vraiment des personnages qui sont au centre, alors qu'ils étaient annexes jusque-là. Donc, il y a tout. Dans la série, donc au final, c'est normal qu'on y revienne. Et moi là, ça me déplaît. Enfin, ça me déplaît plus. Enfin, bref, je sais pas.
Oui, voilà. Vous êtes réconcilié. Vous êtes réconcilié.
Voilà, je suis réconcilié. Merci, Fred.
Juliana, qu'avez-vous pensé de ces derniers opus?
Alors, je dois avouer que j'ai une petite affection particulière pour Rogue Nation aussi, parce que l'arrivée du personnage de Rebecca Ferguson est quand même incroyable et très bien écrit aussi. Ça fait du bien. C'était une licence qui avait des personnages féminins qui étaient toujours en support et qui là commencent à vraiment prendre de l'ampleur. J'adore la scène de l'opéra. Je pense que c'est une mise en scène incroyable. Les suivants. J'ai un petit problème de scénario sur Fallout avec Henry Cavill, parce que je trouve qu'il y a des erreurs.
Oui, il recharge ses bras, c'est ça?
Ses bras, c'est dur, mais ouais. C'est surtout qu'on a un plan à un moment sur son téléphone où on comprend très vite quelque chose que je comprends pas pourquoi on nous donne cette information à ce moment-là du film, et c'est dommage, sans trop rentrer dans les détails.
Un scénario de 33 pages et tourner avec ça, c'est une mauvaise idée pour faire un film de 2h30?
Je pense que ça peut venir de là. Après, j'ai un attachement particulier parce que un peu, il est tourné chez nous, quoi. Voilà, il est tourné à Paris, au Grand Palais, dans les rues parisiennes. Il est
avec un GPS de folie. Hein.
Il est très en écho aussi aux attentats, donc je trouve ça assez touchant et j'avoue qu'il y a une scène pareille où on libère le personnage de Solomon Lane dans un camion de transfert qui est incroyable aussi. Il y a quand même des grands moments de bravoure dans ces films qui font que je reste, je suis là, je suis encore là. Petite déception sur le dernier qui est sorti, mais dont j'attends la suite, parce que peut-être que la suite me réconciliera avec celui-là. Même si j'avoue que j'ai pas boudé mon plaisir et que je me suis pas ennuyée pendant toute la durée du film. Donc moi, j'embrasse ces grands blockbusters assez sincères finalement aussi sur le fait de ne pas bouder son plaisir quand on va au cinéma pour voir des choses comme ça, et le fait que ça soit aussi au cinéma. Je trouve que
voilà, ça réconcilie avec le cinéma.
Voilà.
Et on se retrouvera pour parler, quand le suivant sera sorti, pour parler de ce point final ou non à la carrière d'Ethan Hunt. Merci beaucoup Juliana, merci Renaud, merci Benoît d'avoir évoqué le mythe, la franchise Mission Impossible. J'aimerais remercier également Charles de Cilia qui réalise cette émission, une émission préparée par Benjamin Ducy et Lisiane Larbani avec l'aide d'Emilien Miloc et Camille Olive, ou Camille Olive et Emilien Miloc pour changer. Hein, aujourd'hui on va mettre Camille en premier et Emilien en deuxième. Et à la technique aujourd'hui, on termine par Mathias Alléon évidemment, qui est là, qui ne dit rien, mais il fait des pouces en l'air, des pouces en bas. Vraiment, il est vigilant. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20, le répondeur de l'émission, ou m'envoyer des messages sur Instagram. Désormais, j'ai vérifié, je peux recevoir des messages, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, vous pouvez désormais m'écrire.
Votre vie.
Incroyable. Incroyable. Passionnant. Et bien, je vous rencontrerai le RERC et tout ça. Il se passe des trucs. Allez, à très vite.
Votre mission, Monsieur Briggs, à supposer que vous décidiez de l'accepter, consistera à emporter ces deux têtes nucléaires hors de Santa Costa. Il est bien entendu que si vous-même ou un membre de votre équipe êtes capturé ou tué, le ministère n'ira avoir eu connaissance de vos actions. Comme d'habitude, ce disque va se décomposer une minute après que vous l'aurez sorti de sa pochette de cellophane. J'espère, mon cher Dan, que ceci va marquer votre retour parmi nous. Vous nous avez beaucoup manqué.